bienvenue à l'épisode de Dans la mer climatique sur les ondes de Chiz 94.3. Je suis Naomi, l'animatrice de l'émission, en compagnie de ma co-animatrice Jeanne. Bonjour!
Bonjour!
Donc aujourd'hui à l'émission, nous allons parler de l'industrie de la mode, plus précisément du fast fashion et de ses liens avec la justice climatique. Donc le phénomène du fast fashion ou la mode éphémère en français est caractérisé par le phénomène de la production de vêtements qui sont bon marché et qui suivent les tendances mode du moment. Les entreprises de fast fashion reposent sur une logique de surconsommation par le renouvellement rapide des produits, un volume de production très élevé et des prix qui sont très bas. Cette production permet aux personnes de participer aux dernières tendances, même s'ils n'ont pas beaucoup de moyens financiers, ce qui, d'un côté, permet de rendre la mode plus accessible à un plus grand nombre de personnes. Mais de l'autre côté, puisque les vêtements puisque les tendances vestimentaires changent très rapidement et que les vêtements sont pas très chers, les gens achètent beaucoup plus de vêtements et les conservent aussi moins longtemps. Ils finissent donc trop souvent par être jetés, ce qui constitue un grand gaspillage de ressources. Le phénomène du fast fashion est encore en croissance alors que, comparativement au début des années 2000, le consommateur moyen achète 60% plus de vêtements aujourd'hui, mais conserve aussi deux fois moins longtemps ses vêtements. Donc aujourd'hui, on veut se concentrer principalement sur le coût environnemental et climatique de la mode éphémère, mais aussi sur ses impacts sur la société et sur les inégalités sociales. Donc pour commencer, on va se questionner par rapport aux émissions de gaz à effet de serre de l'industrie. Donc Jeanne, quel est le portrait global de l'industrie des vêtements en termes de GES?
Bien, l'industrie de la mode représente entre 8 et 10% des émissions de gaz à effet de serre mondiaux émis chaque année, soit entre le 4 et 5 milliards de tonnes de GES annuellement. Les émissions du secteur ne sont pas à négliger, ce serait même équivalent à celles du secteur aérien et maritime mondial combiné, donc c'est quand même là, imposant. Si les tendances de production puis de consommation continuent d'évoluer là, dans les tendances qu'on voit actuellement des dernières années, bien, on estime que les émissions de GES atteindraient le 26% du total d'émissions globales en 2050. Donc, ces émissions proviennent notamment de l'extraction du pétrole qui est nécessaire pour la fabrication de tissus synthétiques, comme le polyester. À ce sujet-là, c'est plus de 70 millions de barils de pétrole qui seraient nécessaires pour la production de 40 millions de tonnes de polyester chaque année. En plus, la production textile et vestimentaire en tant que telle, le transport là, des vêtements d'un bout à l'autre du monde émet aussi beaucoup de GES. Donc, par exemple, une paire de jeans peut suivre un trajet là, environ de 65 000 km de sa confection jusqu'à son point là, de vente.
Quelles sont les principales conséquences environnementales qui sont liées à l'industrie de la mode?
Bien, les impacts environnementaux sont principalement au niveau là, de la disponibilité en eau et la pollution de l'eau et des écosystèmes, mais aussi du gaspillage des ressources. Donc, d'abord, au niveau du gaspillage, l'industrie du textile est le troisième secteur consommant le plus d'eau dans le monde, après la culture du blé et du riz. Donc, la production de vêtements utilise environ là, 4% de l'eau potable actuellement disponible dans le monde. En tout, c'est 79 milliards de litres d'eau qui sont utilisés annuellement. Donc, l'industrie de la mode aggrave donc les problèmes de rareté de l'eau dans les régions arides particulièrement, entre autres parce que la culture du coton nécessite là, d'irriguer là, ces terres-là. Et il aurait causé là, la perte donc, de 7% des ressources en eau souterraine et potable, particulièrement dans des régions déjà en stress hydrique, donc comme la Chine et l'Inde. Par rapport à ça, la production du denim aussi est la plus intense au niveau du gaspillage de l'eau. Là. Donc, par exemple, pour la fabrication d'une seule paire de jeans, on doit consommer environ là, 10 000 litres d'eau. Donc, c'est quand même là, une intensité de consommation qui est beaucoup trop élevée là, pour ce qu'on peut se permettre.
Puis, c'est souvent de l'eau potable.
Oui, effectivement. Donc, de l'eau qui est retirée là, du cycle de la consommation pour les besoins, là, que ce soit humains ou des autres espèces vivantes. Voilà. La pollution est aussi très importante au niveau des cours d'eau en soi. Donc, l'industrie causera environ 20% de la pollution de l'eau à l'échelle mondiale, du principalement au traitement puis à la teinture des textiles. Donc, les eaux seraient polluées par plus de 1900 produits chimiques, tous impliqués dans le processus là, de la transformation textile.
C'est beaucoup quand même.
C'est énorme, là, quand même. Là. La culture du coton, notamment, une des fibres qui est les plus utilisées dans la confection de vêtements, est très polluante parce que 10 % des engrais chimiques et 25 % des pesticides produits dans le monde sont employés juste pour la culture de cette fibre-là. On peut comprendre en plus que non seulement ces produits-là chimiques polluent les cours d'eau par ruissellement, puis les sols, les nappes phréatiques, mais aussi que c'est une pollution qui a un impact énorme sur la santé des populations environnantes, notamment des employés là, qui sont en contact avec ces substances-là, qui n'ont pas toujours les moyens d'avoir un autre emploi. Là. Ils ne peuvent pas se déporter vers un autre secteur. Donc, dans les régions productrices, on observe justement une augmentation des cas de cancer, de maladies mentales, congénitales, donc tous produites là, par un contact avec des produits chimiques toxiques. La production textile est aussi responsable de 35 % de la pollution océanique, en particulier du rejet de ce qu'on appelle les microparticules. Donc, c'est 190 000 tonnes de microparticules qui seraient rejetées dans les océans seulement à cause de la production textile, parce que l'entretien là, des vêtements à elle seule, ça en rejette là, environ 500 000 tonnes, ce qui équivaut là, à 50 milliards de bouteilles de plastique rejetées à la mer là, chaque année.
Puis justement, là, qu'on parle de gaspillage, le coût environnemental est aussi présent au niveau de la production de déchets. Donc, comme on l'a mentionné là, un peu plus tôt, la nature éphémère des vêtements du modèle de fast fashion encourage la surconsommation et génère d'énormes quantités de déchets textiles. Ces déchets-là finissent souvent dans des décharges, ce qui contribue bien évidemment aussi à la pollution et à la dégradation de l'environnement. Pour mettre ce phénomène-là en chiffres, le gaspillage de textiles représente plus de 92 millions de tonnes de produits par an. Et c'est souvent des produits qui sont non vendus, donc qui n'ont même pas été achetés et portés là, avant d'aller directement à la poubelle. Donc, en fait, il y aurait seulement 15 à 20 % des produits invendus qui seraient recyclés chaque année. Mais donc, à l'inverse, ça signifie que 75 à 80 des produits invendus finiraient dans des sites d'enfouissement et d'incinération. Donc, plusieurs compagnies là, décident de justement diriger directement leurs invendus dans la poubelle, comme la compagnie Burberry, qui s'était fait prendre là, en 2018 a incinéré un total de 90 millions de livres sterling de produits non vendus. En fait, pourquoi les compagnies font ça, c'est que souvent, elles aiment mieux se débarrasser directement des produits invendus que de les stocker parce que les coûts là, pour l'entreposage et le stockage est très élevé. Puis il y a aussi des impôts là, là-dessus. Donc, voilà, c'est ce qui représente là, ce si grand gaspillage des produits invendus.
Effectivement.
Donc, maintenant qu'on vient de présenter là, les principales conséquences environnementales, on va se concentrer sur les conséquences sociales. Donc, de quelle manière les pratiques de production et de consommation du fast fashion affectent les populations et certaines communautés?
Mais les industries de fast fashion le reproduisent puis exacerbent les inégalités sociales en maintenant les employés des manufactures dans des conditions exécrables. Donc, il serait plus de 75 millions de personnes à travers le monde à travailler dans cette industrie. En fait, pour que les entreprises puissent continuer à offrir là, des vêtements à coût plus qu'abordable, c'est quand même incroyable, mais de nombreuses marques de fast fashion externalisent leur production dans des pays où la main-d'œuvre est bon marché. Donc, principalement des pays d'Asie, comme le Bangladesh, le Vietnam, l'Indonésie, le Cambodge et l'Inde. Ça conduit souvent à l'exploitation des travailleurs dans ce qu'on appelle les sweatshops, donc qui obtiennent des salaires misérables, là, qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Ils sont obligés de faire des heures de travail excessives. Les lieux de travail sont insalubres, dangereux, les normes de travail ne sont pas respectées, les syndicats sont interdits. Puis ça, c'est sans compter l'exploitation de plusieurs milliers, voire des millions d'enfants là, dans l'industrie, alors qu'on essaie évidemment là, d'éradiquer le travail des enfants à travers le monde. Par exemple, la main-d'œuvre travaille en général de 9 à 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Certaines personnes sont même forcées de travailler jusqu'à 16 heures en une journée et ce, sans heures supplémentaires payées. On ne prend pas en compte la sécurité et le bien-être des employés, donc le manque de fenêtres, de sorties de secours et d'extincteurs le mène à des incendies fréquents là, dans ces usines-là. Entre 1990 et 2012, il y aurait au moins 982 morts répertoriées liées à des incendies dans les sweatshops. Donc ça, évidemment, ça compte pas là, Toutes les gens qui ont des conséquences liées davantage à leur santé, donc les agents de produits chimiques, puis qui mourraient de manière là, trop tôt. Dans le fond, là, toutes les conséquences qui sont vécues davantage dans la vie privée ne sont pas prises en compte, c'est vraiment dans des accidents qui sont répertoriés publiquement.
Ouais.
Ce nombre-là, évidemment, a grandement augmenté là, en 2013 à cause de la tragédie là, qui est survenue à Rana, en banlieue de Dhaka, au Bangladesh. Donc, deux usines de textiles qui se sont effondrées, qui ont causé 1135 morts et 2500 blessés, qui avaient à l'époque créé une onde de choc partout dans le monde là, qui ne faisait prendre conscience des conséquences du fast fashion, mais qui ont été malheureusement là, peut-être un peu oubliées là, dans les dernières années.
Oui, c'est vrai. Ça a fait vraiment un gros scandale là, à l'époque. Je me souviens des manifestations et tout, mais c'est vrai qu'on continue. T'sais, oui, ça nous a fait prendre conscience, mais on voit quand même que les compagnies de fast fashion sont toujours aussi rentables et donc que leur modèle d'affaires n'a pas vraiment été... affecté. Là,
non, c'est ça. Il y a eu une contestation, mais je pense qu'on n'a pas remis en question, puis on ne s'est pas rendu compte du rôle du consommateur. Ces entreprises-là peuvent pas faire des profits si on décide d'arrêter de consommer leurs produits. Donc, c'est quand même perturbant là, de voir qu'on continue à consommer des produits extrêmement abordables qui forcent des gens à travailler dans des conditions qui sont inhumaines. Là. Voilà.
Non, tu as raison.
On trouve aussi dans l'industrie de la mode une surexploitation flagrante des femmes. Donc, les femmes composent 80% de la main-d'œuvre dans les sweatshops, ce qui représente environ 60 millions de femmes. C'est elles qui ont les emplois les plus précaires, les moins bien payés. Leur salaire est dérisoire. Là, au Bangladesh, par exemple, les ouvrières sont payées 32 cents de l'heure, le plus bas taux horaire au monde. On peut donc y entrevoir là, quand même une injustice à la base du genre, parce qu'en plus de les maintenir dans une situation précaire et dangereuse, elles sont généralement très jeunes, ce qui augmente évidemment le risque d'harcèlement et d'agression sexuelle pour elles, que ce soit au travail ou lors des déplacements là, en lien avec ça.
Ouais.
La pollution des industries affecte aussi différemment les hommes, puisqu'en plus d'être à risque de développer des cancers, ben, les produits toxiques réduisent aussi la fertilité des femmes. Donc, ça resterait quand même les choix là, qu'elles ont ensuite. Par ailleurs, on voit aussi que certaines entreprises, ben, pour elles, ce n'est pas suffisant. Elles s'engagent clairement dans ce qu'on appelle le travail forcé et l'esclavage. Donc, il y a plusieurs compagnies, notamment Gap, Adidas, Tommy Hilfiger, Calvin Klein et Victoria's Secret, qui engagent la main-d'œuvre dans des prisons. Donc, les employés ne peuvent pas bénéficier d'un statut de travail, ce qui les empêche de toucher le chômage, des congés de maladie, d'être couvertes par les lois du travail, de la santé ou de la sécurité. De manière similaire, on a entendu aussi le cas de Zara qui profiterait du travail forcé des Ouïghours dans les camps là, en Chine pour faire ses vêtements.
Puis justement, là, on vient de nommer quelques compagnies, mais on sait qu'il y en a plusieurs autres qui utilisent le travail forcé et que, en fait, qui suivent pas vraiment les normes et qui briment là, les droits humains. Donc ça, c'est une petite liste, mais il y en a tellement d'autres.
Oui, et puis c'est des tendances qui vont à l'extérieur aussi de la fast fashion, qui ont aussi des entreprises là, d'autres choses que des vêtements qui ont le recours à ces techniques-là. Ouais.
Ça, c'est certain. Donc, en fait, là, pour résumer, en plus d'accentuer les inégalités sociales, en fait, entre les genres. Donc, on voit que l'industrie affecte de manière disproportionnée les femmes. Mais aussi, il y a des inégalités qui sont accentuées entre les pays du Nord et du Sud, en fait, puisqu'on voit que c'est vraiment plus les pays, justement, du Sud, là, qu'on disait auparavant en développement. Donc, c'est ces populations-là qui sont déjà plus vulnérables, précaires, parce que à cause des coûts, en fait, de leur seuil de pauvreté, je dirais.
Oui.
Et donc, on les maintient dans ces conditions-là. Donc, c'est ce qui, en fait, accentue là, les inégalités.
Effectivement.
Donc, maintenant, quel est le rôle des gouvernements, des entreprises aussi, pour rendre l'industrie de la mode plus responsable? Et donc aussi plus durable et respectueuse des droits humains et de l'environnement.
Bien, les gouvernements ont clairement un rôle à jouer dans la régulation de l'industrie de la mode. D'abord, ils ont le pouvoir de réguler la production vestimentaire, notamment en limitant là, les volumes de produits mis en vente. Donc, les gouvernements ont surtout le devoir de réglementer au niveau des conditions de travail des travailleurs et travailleuses du secteur. Le rôle de l'État est donc de protéger ceux-ci en régulant les activités industrielles puis économiques. Ils ne peuvent pas nécessairement réguler les activités économiques qui se passent à l'extérieur de leurs frontières. C'est beaucoup plus difficile.
Oui.
Mais il est possible pour eux d'imposer des réglementations puis de demander des comptes aux entreprises qui font affaire chez eux. Donc, par exemple, la Grande-Bretagne a adopté une loi sur l'esclavage moderne qui oblige toutes les entreprises faisant des profits de plus de 36 millions chez eux à rendre une déclaration annuelle pour rendre compte là, de leurs efforts dans l'identification et l'éradication du travail forcé au sein de leurs entreprises. c'est sûr qu'on pourrait là, descendre là, le taux de profit puis peut-être là, aller restreindre davantage. Mm-hmm. Mais bon,
c'est déjà
c'est un début.
Ouais.
Pour l'impact environnemental, la France a mis en place l'éco-score, donc qui oblige les compagnies à afficher le calcul de leur impact environnemental sur leur site pour qu'il soit accessible aux consommateurs, pour permettre de faire des choix peut-être plus éclairés.
Mm-hmm.
Puis en dernier recours, ils ont aussi le pouvoir d'imposer des sanctions légales et économiques aux entreprises rebelles qui ne respectent pas les normes environnementales puis les normes de sécurité du travail.
Mm-hmm.
Donc, pour les entreprises, on voit que les dénonciations de leurs pratiques destructrices, là, durant les dernières années, les obligent à se responsabiliser face à leurs actions et à apporter les changements nécessaires pour stopper la logique de surproduction inhérente au fast fashion. Il y a plusieurs solutions qui sont envisageables pour les entreprises, à commencer par changer de fibre textile dans leur production pour des textiles qui seraient plus éco-responsables. Mm-hmm. Par exemple, le coton biologique et les fibres végétales sont à privilégier, comme le rayon, le modal, le tencel, le lyocell, qui sont des fibres qui proviennent du bois, parfois qui peuvent notamment aussi être des produits recyclés.
Oui, exactement.
Ouais. Mais souvent, c'est pas suffisant parce que la pression est pas constante sur ces entreprises-là. Donc, mm-hmm. il arrive un événement, on a de la pression pendant un certain laps de temps, le temps que cette nouvelle-là reste dans l'agenda. Mais une fois que c'est évacué, là, souvent, les gens oublient. Donc, c'est mm-hmm. important quand même de continuer à faire des choix, là, justement, là, en fonction de nos valeurs.
Oui, exactement.
Par ailleurs, il faudrait aussi que les entreprises mettent en place une économie circulaire des textiles parce qu'en ce moment, comme on l'a vu plus tôt, il y a énormément de gaspillage. Donc, mm-hmm. Ça permettrait de réduire la pollution puis la production de déchets. Puis aussi, là, en augmentant la circularité, ben, on intensifie l'utilisation des ressources, ce qui est bien, là, dans le fond, de rentabiliser là, quand on exploite une ressource.
Mm-hmm.
Certaines grandes entreprises le font déjà, notamment Patagonia, qui est une compagnie de vêtements de plein air. C'est 70% des produits de la marque qui sont faits de matières recyclées, comme des bouteilles de plastique. Puis leur but, c'est d'atteindre 100% en 2025. Donc, c'est tout prêt.
Oui,
ils utilisent aussi du chanvre, du coton biologique dans la confection de leurs vêtements. Donc, on voit que c'est possible pour des entreprises quand même d'avoir du succès au niveau mondial, tout en prônant une production durable et consciencieuse.
Mm-hmm.
Patagonia aussi qui investit beaucoup après ça dans des projets environnementaux comme la protection des territoires naturels.
Oui.
Malgré quand même ces propositions d'alternatives qui sont réalistes, comment on peut s'assurer que les changements de pratique des entreprises sont réels?
Mm-hmm.
Ah, parce que comme j'ai dit un peu plus tôt, parfois ça peut être une stratégie marketing un peu hypocrite, là, comme le greenwashing, où mm-hmm. Ça reste pendant une certaine durée de temps, puis après ça, on évacue la mesure. Donc, les compagnies, il faut qu'il y ait un devoir là, de transparence face à la société civile. Je pense que la mode, particulièrement, est un milieu qui est, pour le moment, là, très peu transparent, puis auquel on lui demande très peu au niveau là, de reddition de comptes.
Mm-hmm.
Donc, il faut rendre publiques les informations complètes et crédibles sur leurs pratiques environnementales, les nombres de travail implantés, les salaires offerts aux employés. Ça permet donc à la population de demander des comptes, mais aussi d'être aux aguets par rapport aux possibles abus puis de pouvoir faire des choix là, de consommation.
Ouais.
Donc, ça permettrait aussi aux compagnies d'avoir des meilleures données pour les gestions internes. Donc, ils connaissent parfois pas leurs fournisseurs, leurs sous-traitants. Ça leur permettrait de clarifier ces choses-là. Mais aussi, ça leur éviterait d'avoir l'excuse quand il arrive des accidents là, de ne pas avoir été au courant.
Mm.
Donc, on les force là, à prendre en compte l'ensemble de la structure de production.
Ouais. Puis à se responsabiliser.
Exactement.
Justement, comme tu l'as si bien dit. Donc, maintenant, on a quand même un devoir aussi au niveau individuel. Donc, justement, quelle action concrète en tant que consommateur nous pouvons faire là, pour réduire notre empreinte environnementale et sociale liée à notre consommation de mode?
Bien, au niveau individuel, c'est vraiment nos choix en tant que consommateurs qui peuvent faire une différence en arrêtant d'encourager certaines pratiques ou certaines compagnies qui briment les droits humains puis qui nuisent à la protection de l'environnement. En effet, c'est l'intérêt du consommateur, là, se porte vers des articles vestimentaires plus respectueux de l'environnement, issus du commerce équitable, donc qui assure des conditions de vie et de travail mm-hmm. Adéquates aux ouvriers du textile. La mode a tout intérêt à se tourner vers ses produits si elle veut continuer à s'enrichir. La mode, c'est vraiment à cause des tendances, puis ça, c'est vraiment un milieu où le consommateur peut avoir un mm-hmm. impact.
Mm-hmm.
Donc, le plus important, c'est d'encourager des entreprises éco-responsables et durables, puis de délaisser les entreprises du fast fashion, comme Shein, en ce moment, là, qui est sûrement le pire modèle dans l'industrie là, au niveau là, de la surproduction. Donc, cette surproduction qui incite à la surconsommation, qui crée énormément de déchets. On sait aussi que la production de Shein atteint un million de morceaux de vêtements par jour, ce qui représente entre 15 000 et 20 000 tonnes de GES émis quotidiennement seulement pour cette entreprise. Aussi, il y a plusieurs ONG environnementales qui accusent l'entreprise de profiter du travail forcé, de manquer de transparence au niveau de son impact environnemental. En fait, il n'y a aucune transparence chez Shein. Il n'y a pas de livres de comptes ne sont pas ouverts. On ne sait pas ce qui se passe.
Mm-hmm.
Au niveau des employés aussi. Là. C'est quand même on est à un autre niveau encore. Là. On atteint des nouveaux sommets là, au niveau du manque de respect là, des droits humains.
Oui. Puis justement, ben, c'est sûr qu'il y a d'autres entreprises. Là, on nomme souvent aussi H&M et Zara. Mais c'est juste que Shein, en ce moment, son modèle est tellement rentable. Puis c'est une des plateformes là, sur le web là, qui est les plus populaires.
Ouais.
Donc, c'est sûr qu'on doit mettre de la pression là, en tant que consommateur pour dénoncer leurs pratiques, mais aussi, là, justement, comme tu as parlé, le rôle de l'État, des gouvernements. Et on voit justement que les consommateurs, les ONG, mais aussi les États, des gouvernements commencent à faire pression là, sur la compagnie.
Oui, mais parce que la compagnie, elle dépasse le rythme de production des entreprises qu'on considérait déjà comme du fast fashion.
Ouais,
donc, par exemple,
H&M,
Zara arrive même pas à suivre le rythme de cette compagnie-là tellement elle produit. Donc, on peut s'imaginer là toute la main-d'œuvre qui est derrière ça, qui doit être surexploitée, l'environnement qui a énormément de conséquences. Puis en plus, Shein vend ses vêtements là, à des prix qui sont comparés à ce qu'ils ont dans les magasins, qui étaient déjà extrêmement bas. C'est des prix dérisoires.
Ouais.
Là. Donc, pour réussir à atteindre ces prix-là, ben il faut avoir énormément d'exploitation. Là.
C'est quelque chose ne tourne pas rond.
Il y a quelque chose qu'on le sait, mais on se doute, mais qu'on n'a pas encore là. Dû à un manque de transparence, on n'a pas de preuves directes de la part de l'entreprise, mais il y a des enquêtes qui sont faites par des ONG indépendantes. Il y a quand même là, certains employés, des fois, là, qui sortent là, anonymement. Donc, on le sait là, qu'il y a des choses pas nettes là, qui ont lieu.
Donc, pour terminer, puisque justement on a un rôle en tant que consommateur, quelles sont les alternatives au fast fashion qui s'offrent à nous? En tant que consommateur.
Ouais, il y a plusieurs alternatives qui s'offrent aux consommateurs pour éviter d'encourager les grandes entreprises de fast fashion. Tout d'abord, pour ceux qui, quand même, là, au niveau du prix, là, que c'est quand même un enjeu, ben, il y a les friperies, les boutiques de seconde main. Ça, c'est bien pour tout le monde parce que ça permet d'appliquer les concepts de réutilisation, de recyclage. On évite la production de nouveaux vêtements. Donc, ça, en partant, c'est quand même quelque chose que... intégrer dans son mode de vie pour tous et chacun, c'est une bonne chose. En plus, ça vient quand même pallier au fait que parfois, vous allez voir les autres possibilités qu'on vous offre. Parfois, évidemment, produire de manière responsable, donc produire sans exploiter des êtres humains, par respectant l'environnement, ben ça fait qu'on peut pas offrir ça au même coût là que des entreprises là qui font faire ailleurs. Donc ces entreprises-là ont pas le choix de charger plus cher. Donc ça peut être quand même une solution pour continuer à avoir des choses qui sont abordables. Par exemple, il y a quand même des moments où on n'a pas le choix d'acheter des vêtements neufs pour toutes sortes de raisons. Il y a des vêtements qui ne s'achètent pas, là, on s'entend usagés, là, notamment tout ce qui est le sous-vêtement. Donc à ce moment-là, il est quand même important de choisir d'encourager des magasins ou des boutiques qui sont éthiques et éco-responsables. Et ça, il y en a. Donc on a par exemple Frank & Oak, qui est une entreprise canadienne qui veut offrir des produits durables innovants à partir de processus, de matériaux qui ont un faible impact environnemental. Il y a aussi l'entreprise Cebo, qui est une manufacture de vêtements québécoise qui conçoit et fabrique les vêtements ici, au Québec, dans une manufacture syndiquée à partir de matières biologiques recyclées. Il y a Atelier B, qui est une entreprise montréalaise qui mise sur une fabrication de vêtements zéro déchet, un modèle d'économie circulaire. Évidemment, c'est des plus petites entreprises, donc la main-d'œuvre, on le sait qu'elle est bien payée parce que ce sont les designers là, qui travaillent aussi à la production, qui ont leur couturière. Puis pour en savoir plus sur d'autres compagnies, mais moi, je vous invite à consulter leur répertoire en mode responsable. Ils sont là, sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, mais ils ont également un site Internet. Puis ça permet de s'orienter. Ils ont un répertoire avec des marques québécoises durables, socialement responsables. Puis vous avez, là dans le fond, une légende avec différents indicateurs. Donc, à ce moment-là, vous pouvez choisir les marques qui correspondent plus à ce que vous priorisez dans le terme de vos choix de consommation. Puis ça permet des fois de découvrir aussi des compagnies. Puis il faut se rappeler que le vrai prix d'un vêtement, c'est celui-là. C'est pas celui que nous offrent les compagnies de fast fashion. C'est ce que ça coûte faire un vêtement. Puis parfois, il faut regarder. Puis quand on magasine dans ces compagnies-là, on peut quand même trouver des choses là, abordables.
Ouais.
En plus, c'est des produits qui sont plus durables. Donc, dites-vous, pour chaque vêtement que vous achetez dans une compagnie locale, vous faites durablement avec des matières responsables, faites par des couturières qui sont bien payées, qui ont des bonnes conditions, puis qui ont accès à de l'équipement, puis en sécurité. Bien, le produit va durer tellement plus longtemps. Donc, c'est l'équivalent de peut-être acheter presque quoi? Une dizaine de vêtements venant du fast fashion. Donc, il n'y a pas de comparatif.
Oui, exactement.
Voilà.
Puis, en fait, puis aussi, là, les entreprises là, qui sont nommées en exemple, bien, c'est des entreprises locales. Donc, souvent, l'achat local, bien, ça permet de réduire nos GES là, par rapport au transport des vêtements.
Effectivement.
Qui est une très bonne chose aussi. Pour terminer, là, un petit rappel important, c'est que même si on achète d'entreprises éco-responsables ou qu'on achète des vêtements de seconde main, ben, le plus important là, au niveau de la consommation des vêtements, c'est vraiment de réduire la surconsommation tout court. En fait, même si on achète dans des entreprises là, qui sont plus durables et qui ont une meilleure conscience environnementale, mais ce qu'il faut vraiment changer, c'est notre logique de surconsommation. Donc, ça sert à rien d'acheter plus que ce qu'on a besoin. Donc, l'important là, avec tout ça, c'est vraiment de changer nos mentalités en continuant de... ben justement, en faisant des choix qui sont plus consciencieux et donc aussi de réduire tout court notre consommation. Donc, c'est ce qui met fin à notre épisode qui portait là, sur les impacts sociaux et environnementaux de l'industrie de la mode et plus particulièrement du fast fashion. Donc, d'ici à notre prochain épisode, vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook et Instagram ou à l'adresse courriel info@commercialdanslamireclimatique.ca si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires. Donc, on vous remercie d'avoir été à l'écoute de Dans la mire climatique sur les ondes de CHIZ 94.3. À bientôt!